Et nous prenons des nouvelles de l'Union européenne avec Camille Djurovic et Adam Bailly de Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Bonjour Camille Djurovic.
Bonjour Nicolas Dufour.
Et bonjour Adam Bailly.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, trois actualités. De quoi allons-nous parler ? Eh bien, d'un accord sur la protection géographique des produits artisanaux et industriels locaux. Nous allons parler de la Commission européenne aussi, qui instaure des règles plus strictes pour lutter contre la corruption. Et puis enfin, les députés européens votent en faveur de la ratification de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Donc première actualité, qui s'y colle ? C'est
Adam,
eh bien,
Adam,
c'est moi.
Adam Bailly, un accord sur la protection géographique des produits artisanaux et industriels locaux. Dites-nous en plus.
Eh bien oui, Nicolas, les négociateurs du Parlement européen et du Conseil se sont mis d'accord sur un nouveau régime pour protéger l'indication géographique de l'artisanat traditionnel dans l'Union européenne et à l'international.
Quel est l'intérêt exactement ?
Alors la nouvelle législation permettra de remédier aux différences entre les systèmes nationaux en protégeant des produits de renommée locale, comme les bijoux, les textiles, la dentelle, les pierres naturelles, la coutellerie, le verre et la porcelaine, aussi bien dans l'Union européenne qu'à l'échelle internationale.
Donc il y a eu un accord, nouvelle législation, comment ça va se passer ?
Eh bien les nouvelles règles prévoient une procédure d'enregistrement des indications géographiques au niveau national dans un premier temps, suivi d'un examen de la demande des producteurs par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Donc ce sont les producteurs qui vont pouvoir demander à être enregistrés.
Oui, les producteurs pourront soumettre leurs demandes par voie électronique. Les autorités nationales devront aider les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises à préparer leur dossier de demande.
Et comment on va s'assurer que les produits sont conformes ?
Eh bien, les autorités nationales effectueront des contrôles du marché et veilleront à ce que les produits soient mis sur le marché conformément à leurs spécifications. Les nouvelles règles s'appliqueront également aux biens vendus en ligne. Afin de faciliter l'accès à l'information, un portail numérique contenant des informations détaillées sur les organismes de certification accessibles au public sera créé.
Et cela fait longtemps, Adam, que l'Union européenne travaille sur ce sujet ?
La protection de l'indication géographique des produits agricoles au niveau de l'Union européenne est en place depuis des années. Les députés européens ont appelé à mettre en place une protection à l'échelle de l'Union européenne des produits fabriqués localement dès 2015. En 2019, ils ont réitéré leur appel permettant une reconnaissance mondiale des produits non alimentaires locaux.
Et maintenant ?
Désormais, l'accord sur le texte du règlement devra être confirmé par l'ensemble des députés européens lors d'une prochaine session plénière et le Conseil avant d'entrer en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le règlement sera applicable 2 ans après cette date. La Commission européenne devra évaluer cette application tous les 5 ans.
C'est bien noté. La deuxième actualité, c'est pour vous, Camille ?
Non, c'est toujours pour Adam.
C'est toujours pour Adam ?
Eh oui.
Vous avez beaucoup de travail aujourd'hui, Adam. Vous nous parlez de la Commission européenne. Il se trouve qu'elle instaure des règles plus strictes pour lutter contre la corruption.
Oui, la Commission européenne a pris des mesures décisives pour lutter contre la corruption dans l'Union européenne et dans le monde. Cela concrétise l'engagement pris par la présidente Ursula von der Leyen dans son discours sur l'état de l'Union en 2022.
Et cette lutte va s'organiser de quelle manière ?
Eh bien, la Commission européenne va intensifier son action. Pour cela, elle va s'appuyer sur les mesures en place, renforcer les efforts pour intégrer des mesures de prévention de la corruption lors de la conception des politiques et des programmes de l'Union européenne, et soutenir activement les efforts déployés par les États membres pour mettre en place des politiques et une législation forte en matière de lutte contre la corruption.
Oui, parce qu'il faut dire que ces mesures, aujourd'hui, elles semblent plus que jamais nécessaires.
Oui, Nicolas, car la corruption porte gravement atteinte à la société, à nos démocraties et à l'économie. Elle joue un rôle de catalyseur de la criminalité organisée et d'ingérences étrangères hostiles. Il faut donc prévenir et combattre efficacement la corruption pour préserver les valeurs de l'Union et l'efficacité de ses politiques, tout en préservant l'état de droit et la confiance placée dans ceux qui gouvernent et dans les institutions publiques.
Est-ce qu'on sait quantifier ce que représente cette corruption en termes financiers ?
Alors la corruption est par nature difficile à quantifier, mais même des estimations prudentes indiquent qu'elle coûte au moins 120 milliards d'euros par an à l'économie de l'Union européenne.
On n'arrive même pas à visualiser cette somme, tant elle est colossale, 120 milliards d'euros. Comment se situent les pays de l'Union européenne dans cette lutte ?
Les indices mondiaux de corruption placent de nombreux États membres de l'Union européenne parmi les pays considérés comme les moins corrompus du monde. Mais la corruption reste un sujet de préoccupation pour les citoyens dans l'ensemble de l'Union européenne, comme le montrent les données d'Eurobaromètre. En 2022, près de 7 Européens sur 10 pensaient que la corruption était répandue dans leur pays, et seulement 31% estiment que les efforts déployés par leur gouvernement pour lutter contre la corruption étaient efficaces.
Eh bien justement, Adam, quelles sont les mesures qui vont être mises en place ?
un réseau de l'Union européenne contre la corruption, réunissant les services répressifs, les autorités publiques, les praticiens, la société civile et d'autres parties prenantes, élaborera des bonnes pratiques et des orientations pratiques. L'une des tâches essentielles du réseau consistera à aider la Commission européenne à cartographier les domaines communs où les risques de corruption sont élevés dans l'ensemble de l'Union européenne. Les travaux du réseau alimenteront une stratégie anti-corruption de l'Union qui sera élaborée en consultation avec le Parlement européen et le Conseil pour maximiser l'impact et la cohérence des actions de l'Union européenne. Cela passe aussi par la sensibilisation et une harmonisation à travers un seul acte juridique pour tous les délits de corruption et toutes les sanctions.
La mise en place, on peut l'espérer proche dans le temps ?
Et il reste encore du temps. La proposition de directive relative à la lutte contre la corruption devra être négociée et adoptée par le Parlement européen et le Conseil avant de devenir un acte législatif.
Merci beaucoup, Adam. Je tente à nouveau, je me tourne vers vous, Camille. La troisième actualité, c'est pour vous ?
Oui,
vous travaillez
à fait.
Un peu ?
Ouais, oui.
Je vous taquine,
je
vous
confirme.
Avez beaucoup travaillé aujourd'hui. Vous travaillez beaucoup ce mois-ci parce que c'est le mois de l'Europe. Donc,
tout
il y a beaucoup d'interventions un peu partout en Lorraine. Avec vous, on va parler des députés européens qui votent en faveur de la ratification de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes.
Oui, Nicolas. Alors, 6 ans après la signature par l'Union européenne de la Convention d'Istanbul, le premier instrument international juridiquement contraignant pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes et des filles, elle ne l'a toujours pas ratifiée en raison du refus de quelques États membres, et ce malgré les multiples appels du Parlement européen en ce sens. Mais l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 2021 a confirmé que l'Union européenne pouvait ratifier la Convention d'Istanbul sans avoir obtenu l'accord de tous les États membres.
Pourquoi ce texte est-il si important ?
Eh bien, c'est un cadre complet de mesures juridiques et politiques qui a pour objectif de prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles, de soutenir les victimes et de punir les coupables.
Pourquoi la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que l'Union européenne pouvait la ratifier ?
Eh bien, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que les champs d'application de la ratification par l'Union européenne concernaient les domaines de l'asile, de la coopération judiciaire en matière pénale et des obligations des institutions et de l'administration publique de l'Union européenne, et donc que ça faisait partie des prérogatives des institutions européennes. En conséquence, les députés européens ont voté mercredi 10 mai pour donner leur approbation par 2 votes distincts dans le domaine des obligations des institutions et de l'administration publique de l'Union et dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et d'asile.
Est-ce que cela dispense les États membres de le faire ?
Eh bien, comme l'ont rappelé les députés européens, l'adhésion de l'Union européenne à la Convention d'Istanbul ne dispense pas les États membres de la ratifier eux-mêmes. Les députés européens ont d'ailleurs demandé aux 6 pays qui ne l'ont pas encore fait, à savoir la Bulgarie, la Tchéquie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie, de ratifier la Convention sans délai afin qu'elle puisse protéger les femmes dans toute l'étendue du champ d'application qu'elle prévoit.
Quelle est la prochaine étape ?
Eh bien, le Conseil peut maintenant finaliser la ratification de la Convention par l'Union européenne.
Enfin Camille, je ne vais pas vous laisser partir sans vous demander comment se passe le mois de l'Europe, puisqu'on le sait, mai, c'est le mois de l'Europe. Et pour Citoyens et Territoires Grand Est et le Centre d'information Europe Direct, c'est une occasion d'aller non seulement à la rencontre des citoyens, mais aussi des plus jeunes, bon, qui sont aussi des citoyens, mais je pense aux élèves. Beaucoup d'interventions ce mois-ci pour vous.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, on intervient auprès, j'allais dire, de tous les publics, de tous les âges, pour parler, pour sensibiliser à l'Union européenne. Et puis, surtout pour initier les plus jeunes, parce qu'effectivement, on se rend compte que quand ce sont des classes de primaire, ce sont des élèves qui sont nés après des accords importants, après Maastricht, donc après la libre circulation.
Ce sont de petits Européens.
Voilà, tout à fait. Ils sont nés avec l'euro, etc. Donc c'est important de rappeler que tout ça, ça a été l'objet d'une construction, que ça ne s'est pas fait en un jour, que ça a fait l'objet de compromis, et que au final, l'Union européenne, ce n'est pas un objet figé, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on a envie de faire à 27, et donc du coup voilà, d'expliquer que l'histoire et aussi les enjeux de ce qui arrive aussi à l'avenir.
Mais c'est vrai que moi qui ai plus de 40 ans, j'ai grandi en voyant l'Union européenne grandir, j'ai vu cette construction finalement, j'ai vu des pays entrer dans l'Union européenne, j'ai vu l'euro apparaître aussi, remplacer les francs, donc j'ai été témoin de cela comme plein de personnes de mon âge, plus âgées ou un peu plus jeunes, ces jeunes enfants qui ont 10, 11 ans, pour eux, est-ce que quelque part, ça paraît pas plus lointain que pour ma génération, parce que c'est déjà en place?
Je pense qu'effectivement, c'est une réalité. Pourquoi? Bah parce que une question toute simple qu'on leur pose, c'est par exemple, est-ce que vous êtes déjà allé dans un autre pays de l'Union européenne? Et si vous y êtes allé en voiture, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et quand ils vous répondent, non, il s'est rien passé. Pour eux, c'est évident, en fait, qu'ils peuvent traverser les frontières, qu'il n'y a pas forcément un contrôle, etc. Et voilà, c'est tellement imprégné dans leur quotidien que du coup ils ne font plus le lien avec le fait que ça a été une décision et que ça a été quelque chose d'unique
c'est
qui
naturel
n'existe pas
pour eux.
Ailleurs dans le monde.
C'est une bonne chose, ouais. Mais en même temps c'est bien de considérer que c'est une chance et le considère pas forcément puisque c'est naturel.
Non, effectivement, donc ça aussi c'est important de rappeler effectivement que ça fait l'objet d'une construction, que ce sont des accords, que c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps et que ce qu'on a acquis aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça existera encore demain. Et que tout ça, c'est aussi les enjeux des prochaines élections européennes qui arriveront en 2024.
Eh bien, merci beaucoup Camille. Merci Adam également. Et bon mois de l'Europe à vous. De nombreuses interventions encore prévues en milieu scolaire notamment.
Oui, tout à fait, en milieu scolaire. Voilà, des fois aussi sur des thématiques, sur la nouvelle politique agricole commune. Aussi des interventions dans des écoles de la deuxième chance aussi pour sensibiliser les plus jeunes qui bénéficient aussi d'un accompagnement financé par l'Union européenne au titre de la garantie jeune. Donc voilà, remettre un peu l'Europe concrète au centre des préoccupations.
Eh bien, merci à vous. On vous retrouve évidemment dans 15 jours.
À très bientôt.
À bientôt. Au revoir.